Priorité santé. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Il s'appelle Hankin, c'est Ducan, ou Californien et Miami, ou encore, et ça ne s'invente pas, Mayo et Soupe aux Choux. Ce sont les doux noms des régimes qui nous promettent de changer notre vie, de mettre notre corps en accord total avec une perte de poids ou de perdre 8 kilos en 14 jours sans jamais les reprendre. N'en jetez plus, le gras n'a qu'à bien se tenir, à les entendre bientôt grâce à ces remèdes miracles. Nous aurons tous une silhouette de rêve. Oui, mais voilà, ce ne sont que des slogans bien plus efficaces que les régime qu'il vante. Y aurait-il tromperie sur la marchandise? Eh bien oui. Selon le magazine 60 millions de consommateurs qui sort un hors-série sur le sujet, eh bien la plupart de ces régimes seraient inefficaces, voire dangereux pour la santé. Alors sommes-nous destinés à vivre avec nos kilos en trop? Eh bien non, rassurez-vous, il existe des solutions et nous sommes là pour en parler. Mais pas question de célébrer le culte de la minceur et de promouvoir une sorte de corps idéal. Juste quelques conseils pour être bien dans sa peau et renforcer l'estime de soi. Et puis à la fin de cette émission, nous retrouverons le docteur Catherine Solano pour sa chronique sexualité. Et aujourd'hui, il sera question d'un sujet essentiel, le bonheur sexuel. Avec le principe du hamburger, on en salive d'avance. Et si vous aussi vous souhaitez participer à l'émission, posez une question à nos invités sur les régimes ou la sexualité, eh bien c'est très simple, vous nous appelez au 33 1 84 22 75 75 ou vous nous écrivez à priorité.santé@rfi.fr. Bonjour docteur Jean-Philippe Zermati.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était ric-rac, hein.
Vous êtes
arrivé au bon moment.
Les aléas de la circulation.
Voilà. Alors vous êtes médecin nutritionniste et thérapeute comportementaliste. Alors avant de parler des régimes, il faut d'abord se poser la question, a-t-on vraiment des kilos en trop, hein? Par les temps qui courent, on essaie trop souvent de maigrir pour répondre aux canons actuels de la beauté, en oubliant notre poids d'équilibre. Alors comment savoir si on a effectivement besoin de perdre du poids?
Alors, on fait des calculs qui prennent en compte la taille et le poids.
Et le fameux IMC,
indice de masse corporelle. Pour avoir un poids normal, statistiquement normal, il faut se situer entre 20 et 25. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-delà de 30, on est dans l'obésité. On a en France 15% de personnes obèses. Environ 40% de personnes en surpoids. Et environ 70% de personnes qui se trouvent grosses.
Alors, est-ce que cet indice est vraiment fiable? Après tout, ce n'est qu'une donnée parmi d'autres, puisqu'il faut prendre en compte le poids des os, la musculature, les facteurs génétiques, des choses comme ça.
Vous avez raison, c'est très approximatif, très contestable. Il faut le rapporter avec d'autres éléments. Par exemple, avec cet indice-là, un rugbyman est obèse. Avec cet indice, on fait pas de différence non plus entre un homme et une femme. On ne tient pas compte du fait que les graisses peuvent être dangereuses, la répartition des graisses dans le corps peut être dangereuse ou pas. Donc c'est très approximatif, ça permet de faire des comparaisons à un niveau, je dirais, mondial et de pouvoir discuter entre scientifiques. Mais voilà, bon, il faut le relativiser.
Alors ça, c'était pour l'indice de masse corporelle. Quand on parle de poids d'équilibre, est-ce que ça a un sens?
Alors, ça a un sens, c'est très différent. Le poids d'équilibre, ça se définit comme le poids que vous pouvez obtenir quand vous mangez en fonction de votre faim. Voilà. Et c'est pas un poids de... Ce n'est pas un poids de forme, c'est pas forcément un poids où on se sent bien.
C'est ça, en fait, on peut être obèse à son poids d'équilibre.
Exactement. Le poids, c'est comme la glycémie, ça peut se dérégler. Ça fait l'objet d'une régulation. Donc c'est comme la tension, donc il y a une bonne tension et il y a des hypertensions.
On en parlera demain dans l'émission d'ailleurs.
Il y a des bonnes glycémies et il y a des diabétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la glycémie qui est normalement à 1 gramme, elle s'est décalée à 2 grammes, à 3 grammes. Pareil pour la tension. Et le poids, il peut se passer la même chose. C'est-à-dire qu'il peut être régulé dans une fourchette normale. Et puis quand il se dérègle et qu'on atteint le surpoids, l'obésité, c'est que la régulation a situé le poids d'équilibre à un niveau plus élevé.
Alors on ne fait pas ce que l'on veut de son corps, hein. Malheureusement, notre organisme veille à conserver un stock de graisse à peu près constant, et pour cela il module notre appétit. Dès lors, est-ce qu'il est utile de faire des régimes à partir du moment où on n'est pas maître de son corps?
Alors, il y a deux. Je répondrai de deux façons différentes. Très directement à votre première question, est-ce qu'il est utile de faire des régimes ? Je dis non. Tout simplement parce que les études là-dessus sont tout à fait catégoriques. Un régime ne permet pas de maigrir de façon durable. On peut obtenir avec un régime une perte de poids environ pendant une durée de 1 à 2 ans. Au-delà, tout le monde reprend du poids. Alors, on pourrait considérer qu'on a gagné 2 ans de bien-être, mais c'est un peu une courte vue. Les régimes aggravent le poids la plupart du temps.
Donc à cause du phénomène de yo-yo, c'est ça ? On perd, on reprend un peu plus et du coup...
Exactement. On perd et on reprend souvent davantage. Et c'est de plus en plus difficile ensuite à perdre. Donc, à votre question, est-ce qu'on doit faire des régimes ? La réponse est clairement non. Si la question était est-ce qu'on doit essayer de maigrir ? Oui, quand on est en surpoids ou quand on est en obésité, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Il y a des façons d'aborder la question pour ne pas mettre précisément le poids et la santé en danger et pour ne pas aggraver la situation.
Oui, ce qui est bien souvent le cas avec les régimes que je citais dans l'introduction. Alors, il faut être à l'écoute de soi, écrivez-vous dans ce magazine 60 millions de consommateurs. Mais le paradoxe des régimes, c'est qu'ils incitent à réprimer des besoins émotionnels et de ne plus être à l'écoute de soi, finalement. Alors, expliquez-nous un peu le principe.
Alors, tout à l'heure, je répondais à votre question, c'est quoi le poids d'équilibre ? Le poids d'équilibre, c'est le poids que vous pouvez obtenir et maintenir quand vous êtes à l'écoute de vos sensations de faim. Bon, vous mangez à votre faim, vous allez atterrir à votre poids d'équilibre si vous l'avez dépassé. Et vous y maintenez si vous continuez cette écoute. Respectez simplement les besoins de votre corps. Votre corps a des besoins. Pour les satisfaire, il est obligé d'envoyer des signaux, il est obligé de vous envoyer une information. L'information qu'il va envoyer, ce sont des informations par rapport à la faim. Donc si vous êtes à l'écoute de ça, vous atteignez votre poids d'équilibre. Donc c'est ça qu'on essaye de privilégier par rapport à la démarche des régimes qui, elle, impose un contrôle du comportement alimentaire. C'est précisément ce contrôle que pratiquement personne n'arrive à maintenir dans la durée.
Vous écrivez que dès lors qu'on introduit donc contrôle dans sa façon de manger, eh bien on introduit forcément dans le même temps une perte de contrôle.
Oui. Dès lors qu'il y a du contrôle, il y a un risque de perte de contrôle. Alors ça, tous les gens qui font des régimes le savent, c'est-à-dire qu'ils ont forcément en arrière-pensée cette idée, je contrôle, mais jusqu'à quand ?
Mais pour combien de temps ?
Je ne sais pas combien. Ils savent que c'est du provisoire, ça ne pourra pas durer. Ce n'est pas une position qu'on peut maintenir indéfiniment, en tout cas pour la plupart des gens. Finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais régime. C'est le principe même du régime avec la notion de contrôle qu'il implique qui est finalement nocive. Donc, dans les nouvelles approches, on essaye de s'écarter de cette posture de contrôle et d'introduire à la place l'écoute des sensations de faim. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire, si je peux dire.
Mais vous souhaitez déculpabiliser les grignoteurs. Et vous leur dites, alors souvent le grignoteur souhaite manger des choses grasses ou sucrées. Hein. Malheureusement, quand on grignote, c'est pas des brocolis, c'est pas pour la santé. Mais vous êtes dans une optique de les déculpabiliser, de faire ça naturellement.
Je veux pas les déculpabiliser juste pour le principe, pour les mettre à l'aise. Hein.
Oui.
Je veux les déculpabiliser parce que il n'y a pas lieu de se sentir coupable. On a fait aujourd'hui suffisamment d'études sur le sujet pour être capable de dire que l'obésité n'est pas en rapport avec la consommation d'un aliment particulier. C'est-à-dire que c'est pas le fait de manger gras qui rend obèse. Les Esquimaux ont une alimentation à 70% lipidique, par exemple.
Parce qu'ils en ont besoin pour le froid et d'autres facteurs, voilà.
Ils en ont surtout besoin parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Il n'y a pas de légumes sur la banquise.
C'est vrai.
Voilà. Donc, il n'y a pas non plus de relation entre l'obésité et la consommation de sucre. En revanche, il y a une relation extrêmement forte entre l'obésité et la quantité de calories consommées, quelle que soit la nature de ces calories. sans provocation, les vaches, ça peut devenir obèse en mangeant que de l'herbe. Hein. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut devenir obèse en mangeant des légumes. Alors évidemment, on y prend, ça prend un peu plus de temps.
Manger
beaucoup, ça occupe beaucoup de la journée. Bon, donc c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite avec d'autres types d'aliments, bien sûr plus riches. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui provoque l'obésité, c'est la surconsommation de calories par rapport aux besoins de faim. Voilà, pour faire simple. Quelle que soit la nature de ces calories. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez faim et que vous mangez des cacahuètes, elles vous font pas grossir. Ça veut dire que si vous n'avez pas faim et que vous mangez des pommes, ces pommes peuvent vous faire grossir.
Oui, donc la notion d'aliment est à relativiser.
Voilà, donc il n'y a pas lieu de culpabiliser les gens parce qu'ils vont consommer un aliment plutôt qu'un autre.
Eh ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des régimes avec notre invité, le docteur Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste, thérapeute comportementaliste. Et évidemment, continuez à nous appeler pour poser toutes vos questions. Vous nous appelez au 33 1 84 22 75 75. Alors, notre reporter, Pauline Mocor, a rencontré Julie, une jeune célibataire de 25 ans. Elle mesure 1m 72 et oscille entre 70 et 90 kilos. À 16 ans, elle fait son premier régime et perd 30 kilos, mais depuis, elle ne cesse de faire le yo-yo.
Actuellement, je suis au régime depuis 2 mois maintenant. Je fais toujours un peu le même régime, c'est de ne pas manger de féculents. C'est la seule chose qui marche vraiment sur moi, c'est ce qui va le plus vite. En fait, dans une année, j'ai une période où je ne fais pas du tout régime. Et du coup, je me contrôle pas du tout. Et je mange énormément pendant peut-être 6 mois ou un peu plus. Et ensuite, je me mets au régime. Et je reste au régime pendant un moment. Mais en fait, je suis soit tout, soit rien.
Avec ce régime-là, que vous avez commencé depuis 2 mois, vous perdez combien de kilos par mois ?
Là, en 2 mois, j'en ai perdu quasiment 10. Mais là, par exemple, au lieu de me dire que 10 kilos, bah, c'est déjà bien et il faut que j'avance plus doucement, bah, je me dis non, il me reste encore 5 kilos à perdre, ça va être bientôt l'été, donc il faut que je me dépêche. Ouais.
Le fait de prendre du poids ou d'en perdre régulièrement, ça a des conséquences sur votre santé ?
Bah, ça m'inquiète parce que, par exemple, là, quand j'ai commencé mon régime, bah, j'ai pas eu mes règles pendant 2 mois. J'ai eu des petits soucis au niveau de l'anémie. J'ai eu des problèmes de manque de fer à cause des régimes.
Vous aimez votre corps ?
Non. J'aime pas mon corps. Je me dis qu'il me dégoûte et qu'il pourrait pas plaire à quelqu'un d'autre. C'est un peu un cercle vicieux après. Dans le sens où quand on n'aime pas son corps, on n'a pas forcément envie de sortir et qu'au contraire, quand on reste chez soi, on passe notre temps à grignoter.
Quand vous perdez du poids, qu'est-ce que vous avez l'impression de gagner ?
Je gagne en confiance en moi. Je sens que je peux m'habiller comme je veux. Je m'aime plus, donc je me dis forcément que les gens vont être réceptifs à ça. Et c'est le cas.
Est-ce que vous avez des envies de manger qui sont liées à des émotions ?
Quand j'ai un vrai choc émotionnel, je ne vais pas du tout avoir envie de manger. Mais j'ai envie de manger quand je suis contente. Et quand j'ai des petits coups de stress. Et donc c'est à partir du moment où je commence à manger parce que je suis contente, que du coup je suis plus contente parce que j'ai pris du poids et que du coup je continue à manger.
Vous avez déjà consulté un psychologue, un psychiatre ?
Non, j'ai jamais consulté de psychologue. Je considère à tort qu'à chaque fois que je vais voir une nutritionniste, il y aura cette capacité-là. Mais je me trompe. Enfin, la dernière fois que j'ai été en voir une, c'était en décembre. Et je m'attendais aussi voilà, un peu à ce côté psychologique, en fait pas du tout. C'est un peu, bah voilà, vous faites ça, vous faites ci, vous mangez ça, vous mangez ci, il faut réapprendre à manger. Et c'est juste pas du tout efficace. Parce que oui, je sais qu'il faut que je réapprenne à manger, mais là au moment où je vais voir une nutritionniste, c'est parce que j'ai envie de perdre du poids et c'est pas parce que j'ai envie de réapprendre à manger. J'ai pas du tout trouvé ce côté psychologique chez une nutritionniste et c'est dommage. Après, je sais pas dans quelle mesure un psychologue pourra m'aider. J'arrive pas à me rendre compte à quel point mon problème avec la nourriture est quelque chose de psychologique ou pas.
Priorité santé sur RFI.
Des propos recueillis par Pauline Mocor. J'aimerais une réaction, docteur Jean-Philippe Zermati.
Oh, il y a presque tout dans ce témoignage. Il y a pratiquement tout. C'est un condensé.
Elle est bien notre reporter, Pauline Mocor, hein, faut le dire.
Il y a l'échec du contrôle, les régimes, voilà. Donc on est obligé de faire et de recommencer chaque année et plusieurs fois, peut-être même par an d'ailleurs. Il y a le problème de dégoût de soi. Il y a l'alimentation émotionnelle. Il y a l'aspect psychologique du comportement alimentaire. Vraiment, on retrouve absolument tout.
On pourrait peut-être détailler justement parce qu'on sait que le lien avec les émotions est très très fort, hein. Elle parle du stress et de la joie qui lui donne envie de manger. Ça c'est intimement lié, émotion et nutrition.
Alors là il y a un point effectivement qui est très essentiel. Il faut savoir que manger, ça sert de manière naturelle à calmer la faim et à calmer les émotions. C'est normal. C'est-à-dire qu'il est normal d'avoir ce qu'on appelle des envies de manger émotionnelles. Ça fait partie, la nourriture fait partie des moyens de réguler les émotions. Seulement voilà, on peut calmer la faim très simplement avec n'importe quel type d'aliment, vous mangez n'importe quoi, vous aurez moins faim, même si vous mangez des aliments que vous n'aimez pas du tout, vous aurez quand même moins faim après. En revanche, pour calmer une émotion, il faut s'adresser à des aliments particuliers. Et ce sont uniquement les aliments riches qui peuvent calmer les émotions. Ce sont les aliments riches avec lesquels vous avez une relation parfaite. C'est-à-dire vous vous entendez vraiment bien. Un lien affectif. Le problème de ces aliments riches, c'est qu'ils sont tous frappés d'interdits, qu'il est difficile aujourd'hui de les consommer sans anxiété ou sans culpabilité.
C'est la fameuse culpabilité dont on parlait tout à l'heure.
À partir du moment où les gens consomment ces aliments pour se calmer, le problème c'est qu'en même temps qu'ils se calment, ils génèrent de l'anxiété. Et ils génèrent aussi de la culpabilité. Donc on ne parvient plus à obtenir le réconfort normal, celui qu'on est en droit d'attendre justement lors de la consommation de ce type d'aliment. Donc la régulation émotionnelle ne peut pas se faire. Et les gens vont se mettre à lutter contre leur envie de manger émotionnelle, ce qui va les transformer en compulsion. Donc là, il y a une notion qui est un peu complexe peut-être. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est normal d'avoir des envies de manger émotionnelles et par conséquent, il faut apprendre à les calmer avec des aliments riches. Donc il faut être capable de consommer des aliments riches en se défaisant de cette culpabilité, cette anxiété de grossir, ce qui n'est pas tout à fait simple. En revanche, ce qui est anormal, c'est d'avoir des compulsions. Donc ce qu'on doit traiter, ce ne sont pas les envies de manger émotionnelles, c'est-à-dire qu'on ne doit pas empêcher les gens de se calmer en consommant un certain type d'aliments. Ce qu'on doit traiter, c'est la dérive de ces envies vers des compulsions.
C'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement tout est dans le cerveau, puisqu'on ne devrait manger que lors de baisses de réserves énergétiques. Or, ça ne fonctionne pas comme ça.
Alors c'est une vision un petit peu thermodynamique de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on pensait que ça ne servirait que à remplacer des calories. C'est une conception qu'on a eue qui fonctionne pas du tout et qui fait abstraction de tout le côté émotionnel de l'alimentation.
On a négligé l'aspect psychologique, vous pensez ?
On le néglige toujours, oui. Pour le moment, ça c'est le grand absent.
Catherine, alors, en deux mots, parce qu'on doit rendre l'antenne.
Je veux dire, en pratique, ça veut dire que si je mange du chocolat parce que je suis stressée, il faut que je me dise, j'ai bien raison de manger du chocolat, ça me fait du bien, et du coup, je culpabilise pas et je veux pas en manger trop.
C'est exactement ça.
Voilà, le docteur Zermati voulait faire des grignoteurs, arrêter de faire culpabiliser les grignoteurs. Je vais y arriver. On marque une petite pause, retour de l'info, et puis on se retrouve juste après pour parler des régimes. À tout de suite.
Priorité santé. Igor Strauss.
Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des régimes et des bonnes habitudes alimentaires avec notre invité, le docteur Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste et thérapeute comportementaliste. Et à la fin de cette émission, évidemment, nous retrouverons le docteur Catherine Solano pour sa chronique sexualité consacrée au bonheur sexuel. On a hâte de l'entendre. Et puis, si vous aussi, vous souhaitez participer à l'émission, poser une question à nos invités, eh bien, c'est très simple. Vous nous appelez au 33 1 84 22 75 75 ou vous nous écrivez à priorité.santé@rfi.fr.
RFI.
Et alors, comment maigrir sur le continent? Comment perdre du poids? Bien, pour le savoir, direction le Bénin. Bonjour, docteur Victoire Aguet.
Bonjour.
Docteur Victor Aguet, vous êtes médecin de santé publique, chef du département de la promotion de la santé et responsable du programme de master de nutrition à l'Institut régional de santé publique de Ouida au Bénin. Donc, est-ce que l'obésité et le surpoids sont de vrais problèmes de santé publique au Bénin?
Oui, que ça soit aussi bien chez les adolescents que chez les adultes. Une enquête nationale qui a été effectuée en 2008. Selon la méthode Stepwise, a révélé que 23% des adultes âgés de 20 à 65 ans sont atteints de surpoids ou d'obésité. Et l'obésité, c'est autour de 10%.
Alors, qu'est-ce qui est en cause? C'est les mauvaises habitudes alimentaires, c'est ça?
Essentiellement, il y a ce que nous appelons la transition nutritionnelle qui se caractérise par une évolution des habitudes alimentaires. Partant des aliments, de la consommation en majorité d'aliments pauvres et riches en calories, mais pauvres en graisse, en sucre, mais riches en fibres. Donc le passage progressif à des aliments, à une alimentation de type occidentalisé qui a tendance à être pauvre en fibres, mais plus riche en gras et en sucre. Et aussi, d'une façon générale, nous avons noté une baisse du niveau d'activité physique aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
Eh oui, d'ailleurs, vous citiez cette enquête nationale au Bénin de 2008. Il y en a une autre en 2012 qui porte sur le sport et qui révèle que 80% de la population ne fait absolument pas de sport. Mais alors, vous nous disiez qu'au Bénin, les gens mangent surtout donc des céréales et des féculents, pas trop de légumes. Pourquoi? C'est en raison du coût? Ils sont trop chers, les légumes?
Non. Bon, ce sont les habitudes alimentaires. Les légumes, lorsqu'ils sont consommés, sont en général consommés sous forme de sauce entre guillemets, et la quantité ne permet pas de couvrir les besoins. Bon, et nous n'avons pas l'habitude de consommer les légumes crus.
Oui, c'est ce qu'il faudrait.
Malheureusement, c'est ça le problème. Ce n'est pas dans les habitudes.
Et puis...
Nous sommes en train... Oui.
Et puis, pardon, excusez-moi de vous couper, il y a un gros souci, me disiez-vous hier au téléphone, avec les bouillons cubes, qui d'ailleurs bien souvent sont des faux, hein. Rappelons-le, sur le continent, souvent ils sont faux, bourrés de sel, faits à base d'arêtes de poisson, et ça, c'est pas tellement bon pour la santé.
Ce n'est pas bon pour la santé, et le danger, surtout en zone rurale, c'est que ces légumes étant riches, pour la plupart, contiennent du glutamate, ça donne un bon goût, mais ça n'apporte rien sur le plan nutritionnel. Donc, la majorité, surtout pendant les périodes dures, la sauce, c'est quoi? C'est un peu de tomates, un peu de beaucoup de piments, un peu d'oignons et surtout beaucoup de cubes. Ça a bon goût, mais il n'y a pas de protéines, que ce soit d'origine animale ou végétale. Et le gros lot, quand on considère la ration alimentaire, les féculents et les céréales constituent la grande partie. Donc, vraiment une alimentation essentiellement.
Docteur Aguet, il y a également des facteurs culturels. On sait qu'en Afrique, il est bien vu d'avoir un ventre administratif, un symbole de richesse. Est-ce qu'à ce niveau-là, les choses évoluent?
Oui, bon, les choses ont commencé à évoluer parce qu'il y a pas mal de campagnes de sensibilisation. Il y a pas mal, nous sommes en train d'encourager le sport, plutôt en milieu rural, au niveau des quartiers. Et spontanément, il y a des groupes de solidarité qui se créent. Et de plus en plus, les gens s'organisent pour faire du sport, surtout pendant les week-ends. Mais d'une façon générale, c'est toujours c'est la tendance de croire que l'obésité abdominale est un signe d'opulence cette tendance n'est pas encore vraiment combattue. C'est toujours en vogue.
Et oui, et pareil pour les femmes, hein, dont les formes sont symboles de beauté, et donc on encourage un peu le surpoids. Vous parliez donc de ces initiatives, de faire du sport en commun, le samedi notamment, ou durant le week-end, tout du moins. Est-ce qu'il y a aussi d'autres initiatives au niveau de la nutrition? Je pense au jardin potager et des choses comme ça.
Oui, dans les écoles, nous sommes en train d'encourager les jardins potagers pour que les enfants prennent l'habitude de consommer davantage de légumes et encouragent ainsi les parents à entretenir également ces jardins potagers. Bon, c'est un mouvement d'ensemble au niveau national. Il y a des réflexions qui sont en cours pour revenir sur cette promotion des jardins potagers qui, il y a de cela 30 ans, avait suscité beaucoup d'enthousiasme, puis c'est tombé dans les oubliettes. Mais ça revient, parce que c'est la meilleure façon d'améliorer la consommation des légumes.
Et puis, il faut rappeler qu'on peut manger, bien manger, à moindre coût, hein, tout en mangeant notamment des fruits et légumes de saison. C'est bien de le rappeler. On n'a pas besoin d'être riche pour bien manger. Merci infiniment, docteur Victoire Agué. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, chef du département de la promotion de la santé et responsable du programme de master de nutrition à l'Institut régional de santé publique de Ouidah.
Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des régimes avec notre invité, le docteur Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste, thérapeute comportementaliste. Alors, certains régimes sont-ils dangereux, docteur Zermati?
Oui, il existe des régimes très carencés et qui peuvent présenter un danger pour la santé quand ils sont prolongés. Heureusement, la plupart de ces régimes sont rapidement abandonnés.
Oui, n'empêche qu'ils font la une des magazines pendant un certain temps. Je pense au régime Ducamp, hein, extrêmement riche en protéines. Il ne s'agit de manger que de la viande, si j'ai bien compris.
C'est un régime qui est très déséquilibré qui présente des dangers pour la santé, qu'on a fortement déconseillé. Et il ne présente pas seulement d'ailleurs des dangers pour la santé, il présente aussi, surtout, moi je pense que c'est quand même le principal reproche qu'on puisse lui faire, c'est qu'il présente des dangers pour le poids. C'est-à-dire que c'est quand même un traitement qui est censé améliorer la question du poids, le surpoids, enfin traiter le surpoids et l'obésité, dont on sait les problèmes que ça peut poser, et qui en réalité va les aggraver. Et qui va les aggraver fortement. C'est-à-dire que ce régime est très restrictif, et plus les régimes sont restrictifs, plus ils présentent des dangers pour la santé et pour le poids.
Mais alors, quel type de conséquences pour la santé? On entendait dans le témoignage de Julie tout à l'heure qui nous disait qu'elle avait perdu ses règles pendant 2 mois, qu'elle était anémiée, qu'elle manquait de fer. C'est ce type de trouble?
Ça va dépendre du type de régime. Plus le régime est concentré sur la consommation d'un aliment, donc par exemple que de la viande dans le régime Ducamp, par exemple que des légumes dans le régime Hollywood, que des fruits, etc. Et plus le régime va avoir des carences, et des carences qui sont spécifiques au type de régime.
Alors, nos auditeurs sont nombreux à vouloir vous poser des questions et nous sommes en ligne avec Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour.
Okay.
Bonjour Abdoulaye.
Allô?
Oui, vous êtes à l'antenne. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Växjö, en Suède. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé.
Oui, c'est Växjö.
Alors, quelle est votre question pour le docteur Zermati?
En fait, ma question, je voudrais savoir quelles sont les conséquences de mon régime.
Ah, alors vous faites quoi comme régime déjà, parce que...
Oui, parce que là, depuis quelques mois, j'ai fait un régime et je ne sais pas quelles seront les conséquences dans l'avenir si ça ne va pas me causer que des problèmes de santé.
Mais vous faites quoi? Alors moi, vous nous avez envoyé un mail, alors je vais peut-être préciser un peu votre question. Vous avez arrêté de boire des sodas, vous ne mangez plus d'aliments gras, vous mangez davantage de fruits et du riz, je bois beaucoup d'eau, je ne mange plus beaucoup, ce sont de grosses privations, et je me demande, écrivez-vous, si cela peut me causer des problèmes sur ma santé à l'avenir. Écoutez, le docteur Zermati vous répond.
Alors écoutez, je sais pas, d'après ce que vous dites, moins de gras, plus de légumes, plus de riz, a priori, ça ressemble à quelque chose d'assez diversifié. Peu de risques de carence sur la santé. Le problème, c'est qu'on est encore dans un régime, c'est-à-dire qu'on est encore dans un processus de contrôle, et que qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors je sais pas pour ce monsieur en particulier, je sais ce que disent nos études, c'est que dans un premier temps, il va y avoir une perte de poids. Cette perte de poids, elle va s'étendre sur une durée de 6 mois à 1 an. Et puis, au cours de la deuxième année, il va y avoir une stabilisation. Et à partir de la deuxième année, il va y avoir une reprise du poids.
Donc, c'est pas forcément une bonne chose.
Donc, c'est pas une bonne. Les régimes, il faut le répéter.
Ouais, ouais.
Les régimes ne sont pas bons pour le poids.
Et quand même, j'ai noté qu'il a dit j'ai arrêté les sodas. À mon avis, c'est une bonne idée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'ai pas de. Alors, je vais à la fois répondre à cette question et puis répondre peut-être au commentaire du docteur Victoire
Aguet, qui était au Bénin.
Je pense qu'il faut éviter de faire une confusion entre deux aspects. Il y a dans l'alimentation un aspect santé et un aspect poids. Il faut absolument les dissocier. Avoir une alimentation équilibrée permet d'avoir une bonne santé. Ça ne prédit absolument pas le poids. On peut avoir une alimentation équilibrée et être parfaitement obèse. On peut avoir une alimentation déséquilibrée et être tout à fait mince. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, il n'y a pas de lien entre la consommation de gras, par exemple, puisqu'on en parle, mais on pourrait dire la même chose avec le sucre, entre la consommation de gras et la consommation et le poids. Par exemple, il y a 30 ans, un régime extrêmement en vogue, qui était le régime Atkins, où on faisait maigrir les gens en privilégiant la consommation d'aliments gras, d'aliments riches. On leur faisait manger des charcuteries, du pâté, etc. Et les gens, on avait des pertes de poids spectaculaires. Donc, on peut maigrir en mangeant du gras. On peut grossir en diminuant le gras. C'est exactement ce qu'on observe, par exemple, depuis 20 ans aux États-Unis. On a à force de campagne anti-gras, on a obtenu aux États-Unis une diminution de la consommation de gras d'environ 10 à 15%. Et dans le même temps, d'ailleurs dans le temps où on a obtenu cette diminution de 10% de la consommation de graisse, l'obésité a doublé. Donc, il faut tout à fait dissocier ces deux aspects. Il faut bien retenir que la composition de l'alimentation a un effet bénéfique ou pas, d'ailleurs, sur la santé, mais est indépendante du poids. Pour le poids, il s'agit d'une quantité de calories. Donc, si au Bénin, par exemple, les gens prennent du poids, c'est parce qu'ils mangent plus qu'avant. Simplement. Et pas forcément du gras. Par exemple, au Maroc, on s'est aperçu que les gens avaient augmenté considérablement la consommation de calories, parce que le pays s'était enrichi. En revanche, la consommation de gras avait diminué. Donc on a tous les cas de figure, véritablement. Ce qu'on doit rechercher, ce sont des relations de cause à effet. Et cette relation de cause à effet avec le poids n'existe que pour les calories.
Alors, on va remercier Abdoulaye, qui nous appelait de Växjö en Suède. Il est vrai qu'un nombre incroyable de diktats circulent en matière de diététique. Mais alors, est-ce que ces conseils sont fondés? On va vérifier ça avec vous tout de suite, docteur Zermati. Il est dit qu'il faut manger léger le soir. Qu'en est-il?
Eh bien, c'est une idée toute faite. On a étudié le poids des personnes qui pratiquaient le ramadan. Donc, qui mangent énormément le soir et même qui ne mangent que le soir.
Puisqu'il ne faut pas manger pendant.
Il ne faut pas manger.
Le lever du soleil à l'année.
Voilà. Et on mange, on prend la seule consommation, c'est le soir. Et on a constaté que il y a deux études sur ce sujet-là, que dans une étude, les personnes ne changeaient pas de poids, et dans l'autre, elles en perdaient un peu.
Comme quoi, hein. Je continue. Il est déconseillé de grignoter entre les repas. Est-ce vrai?
Alors, tout dépend de ce qu'on a. Il faut s'entendre sur le terme de grignotage. Le grignotage, ça veut dire manger sans faim. Donc manger sans faim peut conduire, quand c'est répété, à des prises de poids. En revanche, manger deux fois, trois fois, c'est-à-dire fractionner son alimentation, ça veut dire la répartir sur on a testé jusqu'à 17 prises alimentaires. Mais des prises alimentaires qui sont déclenchées par la faim. Ça n'entraîne aucun effet négatif sur le poids. En gros, si votre corps a besoin de 2000 calories par jour, que vous les mangiez en une fois ou en 10 fois 200 calories, ça revient au même.
Il y a tout un tas d'idées reçues. Il faut éviter les sucres rapides et privilégier les sucres lents.
Ben, là encore, les études ne confirment pas. On a même une relation, dans beaucoup d'études, on a même une relation inverse, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ceux qui ont le poids le plus bas sont ceux qui ont la consommation de sucre rapide la plus importante. Dans certaines études, dans d'autres études, c'est l'inverse. Donc, quand vous avez des études qui vous disent une chose et leur contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet en général.
Il faut boire beaucoup d'eau pour maigrir.
Non, il faut boire beaucoup d'eau pour être hydraté.
C'est les questions qui étaient posées dans 60 millions de consommateurs, donc le journal qui a mené cette enquête sur les régimes. Et c'est vrai que voilà, on a tendance à croire qu'en buvant beaucoup d'eau, on va maigrir, mais ce n'est pas le cas. Y a-t-il des produits brûleurs de graisse? On pourrait citer les ananas, les pommes, les pamplemousses, la menthe, la cannelle. Ce sont ces aliments dont on vante les mérites.
Non, alors tous les aliments, et c'est la définition d'un aliment. Un aliment se définit par le fait qu'il fait grossir. C'est-à-dire que tous les aliments font grossir. Dans la mesure où un aliment, c'est quelque chose qui forcément apporte des calories. Voilà. Et donc, il y a eu ce concept intéressant d'ananas brûleur de graisse, c'est-à-dire d'une espèce d'aliment qui apporterait des sortes de calories négatives, qui n'existe pas. Je suis au regret de vous le dire.
Oh non, moi j'accepte. Hein. Ce sont là ce qui revient dans les revues de presse. Allez, une petite dernière. Il faut manger trois fois par jour. Ça va faire sourire en Afrique, malheureusement.
Alors là-dessus, on a aussi des études et on a testé de 1 à 17 repas. On s'aperçoit qu'on n'a pas d'effet particulier sur le poids. C'est indépendant. Par exemple, en Asie du Sud-Est, l'habitude, c'est de prendre 10 à 12 prises alimentaires par jour. Chez nous, en France, on est aux alentours de 5 à 7 prises alimentaires.
En Afrique, une à deux.
Et là, on est plutôt maigre.
Donc voilà, tout est à relativiser.
Mais c'est encore une question de calories. Parce que voilà, on pourrait être obèse en mangeant deux fois par jour. Hein.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé, suite et fin. Et voici le moment de retrouver le docteur Catherine Solano pour sa chronique sexualité. Bonjour Catherine.
Bonjour Igor.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet essentiel, le bonheur sexuel. Alors, quelles sont les pistes pour aller vers davantage de bonheur sexuel?
Alors déjà, je trouve que c'est un sujet très important parce qu'on a tendance à parler beaucoup du plaisir dans la sexualité, pas tellement du bonheur qui pourtant est plus important. Puis même quand on parle du plaisir, très souvent, les gens pensent à l'orgasme, alors que heureusement, c'est loin d'être le seul plaisir sexuel. Donc moi, je voudrais élargir le sujet et parler du bonheur.
Alors, comment reconnaît-on justement ou comment définit-on le bonheur sexuel?
Alors le bonheur, évidemment, il y a des définitions comme pour le poids ou le surpoids, etc. Et donc le bonheur, ça va être un bénéfice immédiat, c'est-à-dire un plaisir que vous ressentez immédiatement, associé à un bénéfice à long terme. Et comme on a parlé de nutrition, justement, je vais vous expliquer le fameux principe du hamburger.
Ah, j'attendais ce moment, Catherine.
Et alors donc, quand vous mangez un hamburger, par rapport au plaisir et au bonheur, il y a quatre possibilités. La première possibilité, c'est votre hamburger vous procure du plaisir, mais il est mauvais pour votre santé, donc mauvais à long terme. Donc, c'est pas du bonheur. Deuxième possibilité, le hamburger végétarien. Il est censé être bon pour votre santé, mais il est pas bon au goût, donc vous n'avez pas de plaisir à le manger. Troisième possibilité, la pire, c'est que vous mangez un burger bas de gamme, il est mauvais, vous n'avez aucun plaisir, et en plus, il est mauvais pour votre santé. Là, c'est le degré zéro du bonheur. Et évidemment, la meilleure possibilité, c'est le hamburger maison, que vous allez faire avec des produits de qualité, et il va être bon au goût, vous allez l'apprécier, et en plus, il va être bon pour votre santé. Et là, c'est le bonheur.
Bon, alors ça, c'est dans le domaine alimentaire. Comment le bonheur fonctionne-t-il dans la sexualité, Catherine. C'est ça qui intéresse nos auditeurs.
Voilà.
Même.
Alors, je vais reprendre le principe du hamburger dans la sexualité. Donc, on va avoir quatre attitudes par rapport à la sexualité. Il y a ce qu'on appelle le jouisseur. Il va avoir du plaisir à court terme dans la sexualité, sur le moment, mais négatif à long terme. Ça peut être, par exemple, une personne qui multiplie les partenaires sans chercher la qualité de la relation. On va avoir le fonceur qui est centré sur ses objectifs et du coup, il pense pas à son bonheur immédiat, c'est-à-dire au plaisir dans la sexualité. Ça va, par exemple, être quelqu'un qui a tellement envie de faire plaisir à l'autre pour que la relation continue, bah, qui fait tout pour donner du plaisir, mais il pense pas à son plaisir, donc il ressent pas tellement de plaisir. Il y a le défaitiste, c'est le pire, il a aucun plaisir sur le moment, ni même à long terme. Ça va être, par exemple, quelqu'un qui se dit, j'ai pas confiance en moi, de toute façon, je suis nul, ça va être raté, et en plus, je vais jamais trouver quelqu'un de bien tellement je suis nul. Là, c'est la catastrophe totale. Et heureusement, il y a quand même des personnes heureuses et qui trouvent le bonheur dans la sexualité. Ça va être quelqu'un qui sait profiter du plaisir de l'instant et qui, en plus, est dans une relation sexuelle qui apporte du plaisir sur le long terme, c'est-à-dire, en général, une relation de qualité avec la personne avec qui il est.
Et sur le long terme, justement, qu'est-ce qui peut rendre vraiment heureux dans la sexualité?
Alors, ça va pas être la même chose pour tout le monde, parce que sur le long terme, c'est une question du sens de la vie aussi et de la sexualité. Donc, il suffit pas d'avoir un bénéfice à long terme, il faut que ce bénéfice à long terme vous corresponde et qu'il ait du sens pour vous. Par exemple, je vais prendre un exemple, un des plus grands bonheurs sexuels, à mon avis, qu'on puisse avoir, c'est quand on est avec quelqu'un qu'on aime et qu'on a envie de faire un enfant. Parce qu'on peut avoir du plaisir dans la sexualité du moment, et en plus, on a une dimension à long terme de continuation de la vie. Mais pour d'autres personnes, ça va pas du tout être ça, on veut pas forcément un enfant tous les jours de sa vie, heureusement, sinon on serait plus 6 milliards, mais je sais pas combien. Donc pour d'autres, ça va être important de construire un couple, par exemple. Ou pour d'autres, ça va être de se rapprocher de l'autre parce qu'on a des projets communs, et ça peut même être ensemble d'avoir du plaisir sur le moment, mais de découvrir l'art sexuel, de développer une belle sexualité. C'est aussi un projet à long terme.
Alors, en pratique, pour nos auditeurs, comment faire pour être plus heureux dans notre sexualité?
Alors, le premier conseil, c'est le plaisir du moment. Il faut savoir profiter de l'instant, c'est-à-dire orienter son esprit vers ce qui est agréable. Ça va être l'odeur de la peau de votre partenaire, sa respiration, le contact avec sa peau, les gémissements, les paroles, les sensations intérieures. C'est ce qu'on appelle essayer d'être dans la plénitude de l'instant. Et ça paraît simple, mais c'est pas facile parce qu'énormément de personnes pendant un rapport sexuel sont centrées sur un but à atteindre. Ils vont se dire, il faut que je donne du plaisir à l'autre, il faut que j'ai un orgasme, il faut que j'ai une bonne érection, il faut que j'éjacule pas trop vite, il faut montrer que je suis bon au lit ou bonne au lit, vous voyez. Et du coup, quand on se concentre sur la performance, on n'est pas tellement dans le plaisir de l'instant. Donc ça vous éloigne du bonheur. Deuxième chose, c'est que être dans la relation et dans l'échange et l'ouverture à l'autre, ça c'est plus pour le plaisir plus profond et à plus long terme. Se dire que la sexualité, c'est pas juste une prestation de service où vous allez avoir une note, mais c'est une manière de communiquer avec l'autre. Et plus vous avez des choses à lui communiquer, plus ça peut être beau. C'est-à-dire que quand vous faites l'amour, ça peut vouloir dire j'ai envie d'être plus proche de toi, j'ai envie de te consoler, j'ai envie de te montrer que je t'aime, j'ai envie de célébrer comme ta beauté, la merveille que tu es, etc. J'ai envie que tu sois heureux. Et plus le message à passer est beau, plus vous allez être heureux dans votre sexualité. Et donc, du coup, il faut se concentrer sur des petites choses. Et petit à petit, on peut développer ce qui va augmenter votre plaisir et votre bonheur sexuel. Et je peux vous dire que moi, je vois en consultation, heureusement, des couples qui sont ensemble depuis 40 ans et qui réussissent à atteindre ce bonheur sexuel.
Et c'est une bonne nouvelle. Merci Catherine pour cette chronique. Et puis évidemment, comme chaque semaine, vous allez maintenant répondre à la question d'un auditeur. Alors, un auditeur qui était injoignable au téléphone ce matin, je vais donc me faire son porte-voix. C'est Souleymane de Niamey qui se demande quelle est la durée normale d'un rapport sexuel chez l'homme.
Alors déjà, il faut savoir que dans la sexualité, il n'y a pas vraiment de normalité, donc il n'y a pas de durée normale, objectivée, codée d'un rapport sexuel. Heureusement, chacun fait ce qu'il veut, et on peut être très satisfait ensemble, quelle que soit la durée. Néanmoins, je vais donner quelques conseils pratiques, bien sûr. Et donc, en général, on dit qu'une femme a besoin d'une durée de préliminaire en moyenne plus importante qu'un homme, ça serait en moyenne 20 minutes de caresses, de baisers, avant que son corps soit prêt et que la lubrification sexuelle en particulier soit suffisante pour une pénétration. Mais c'est qu'une moyenne, bien sûr, il y a des femmes qui vont avoir besoin de plus de préliminaires et d'autres, ou même la même femme, un autre jour quand elle a beaucoup de désir et une excitation forte, ça peut être en quelques secondes. Mais la moyenne, c'est 20 minutes.
Et pour les hommes?
Alors du côté des hommes, en général, en moyenne, un homme son corps a besoin de 3 fois moins de durée de préliminaire qu'une femme. Donc ça, c'est un problème, parce que dans un couple, un homme se dit, bon, je commence à faire des câlins et des caresses, il se dit, c'est bon, je suis prêt. Et ben, elle est pas du tout prête. Il faut qu'il double encore le temps de ce qu'il faut faire comme caresse avant la pénétration. Et puis, pour l'homme, le souci au niveau de la durée du rapport sexuel, c'est souvent qu'il a peur d'éjaculer trop rapidement. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, plein d'auditeurs nous posent des questions. Et donc, nous, en tant que sexologue, on a un chiffre qui s'appelle, qu'on code, c'est l'IELT, c'est-à-dire la durée du rapport sexuel à partir de la pénétration, le temps de latence éjaculatoire. C'est pas poétique, mais bon, si ça dure moins de 2 minutes, c'est que c'est trop rapide, qu'il y a peut-être un souci. À partir de 3 minutes, c'est pas vraiment une éjaculation précoce, c'est qu'on peut trouver ça trop court, mais en s'entraînant et en observant, on arrive à faire durer le plaisir plus longtemps.
Et la durée totale d'une relation sexuelle, c'est quoi en moyenne? On parle de moyenne.
Voilà, là c'est une moyenne, c'est-à-dire ce qui a été observé. On sait qu'une relation sexuelle dure en moyenne 20 minutes préliminaires compris. Alors vous voyez que c'est pas suffisant pour la plupart des femmes, puisque la plupart des femmes ont besoin de 20 minutes de préliminaires. Et elles s'en plaignent énormément en consultation. Elles me traînent leur mari en disant, vous allez lui expliquer qu'il faut faire plus de préliminaires. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut plutôt augmenter un petit peu la durée des préliminaires, mais qu'on peut faire l'amour en 5 minutes et être ravi, ou en 3 heures, ou même toute la nuit, être ravi aussi, on a le choix, heureusement.
Eh bien, merci beaucoup Catherine pour ces réponses. J'espère que Souleymane était au moins à l'écoute. Ça vous a inspiré, Jean-Philippe Zermati, cette chronique?
Ah bah oui, il y a des points communs avec l'alimentation. J'entendais qu'il fallait être dans l'instant présent, qu'il fallait être sensible aux odeurs, aux touchers, etc. C'est ce qu'on apprend aussi à faire en consultation à nos patients. On apprend à la dégustation.
Eh bien, merci en tout cas d'être passé dans ce studio pour nous expliquer tout ça. C'est la fin de cette émission préparée par Assitou Samaké et Alexandre Serre. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu et Hugo Violas. Demain, nous parlerons de l'hypertension. Évidemment, on attend vos questions au 33 1 84 22 75 75. À demain.